RCF.
Amis auditeurs, auditrices de RCF, de notre émission La vie militaire dans le Cher et le Berry, dans le cadre du Berry se raconte avec Agora d'Essence. Bonjour, nous poursuivons la passionnante histoire de la carrière de l'amiral Philippe Mallard. Bonjour, amiral. Nous allons poursuivre votre carrière. Rappelons-nous que nous nous sommes quittés, vous étiez préfet maritime de la Manche, hein, très précisément, auquel vous étiez très très attaché, mais vous avez été nommé vice-amiral d'escadre et vous avez commandé la force d'action navale. Alors là, amiral, devant vous, vous avez un terrien qui se pose vraiment la question, qu'est-ce que la force d'action navale? Est-ce que vous pouvez m'expliquer? À vous.
Ok, alors écoutez, effectivement, je reviens juste deux secondes sur mes fonctions de préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord.
La mer du Nord, oui.
C'est que nous n'avons pas abordé du tout le problème du droit international et des zones économiques exclusives par rapport aux zones contiguës. C'est comme vous voulez.
Ah oui, allez-y au contraire.
Maintenant, oui. Donc si vous voulez, le droit international, résumé en une phrase, c'est « en mer, la liberté ». En fait, c'est beaucoup, évidemment, plus compliqué que ça. Et plus vous vous éloignez de la terre, plus c'est vrai. Alors, vous avez les eaux territoriales, vous êtes grosso modo chez vous, vous faites ce que vous voulez. Vous avez ensuite le double des eaux territoriales. Après, vous avez la zone contiguë qui double et sur laquelle, grosso modo, vous pouvez intervenir s'il se passe quelque chose qui vous ennuie. Et vous avez l'exclusivité de l'exploitation des fonds marins. Et enfin, encore au-delà, c'est la haute mer, grande liberté, mais chacun sait que la liberté s'arrête là où commence celle des autres.
Oui.
Et surtout quand il y a des gens qui ont envie de vous embêter ou de prendre vos petites affaires, on va dire.
Oui.
Et donc là, c'est très international, mais il y a beaucoup de choses qui se passent en dehors du droit, qui se passent soit dans les coutumes, soit dans les habitudes. Soit, et ça a grandi pas mal en ce moment, dans ce qui n'est pas follement légal et conforme même aux conventions de l'ONU. Alors, vous avez une convention internationale de l'ONU qui s'appelle la Convention de Montego Bay, qui régit tout ça, qui a été rédigée en 1996, que tout le monde veut changer parce qu'elle est vraiment obsolète, mais personne n'arrive à se mettre d'accord sur une nouvelle version.
C'est une grande question à laquelle nous aborderons un autre point, amiral. Alors justement, là, je reviens à ma question.
Alors maintenant, force d'action navale.
Qu'est-ce qu'une force d'action navale?
Alors il y en a, c'est la force en France.
Il y a une force. Voilà.
Alors en France, vous avez des bateaux peints en gris qui appartiennent à la marine.
Oui.
Dans ces bateaux peints en gris, il y en a qui ont des canons, d'autres qui n'en ont pas.
Oui.
Il y en a qui sont dits de servitude, d'autres qui sont dits de haute mer.
Oui.
Et entre les deux, vous avez toute une catégorie dite côtière. La force d'action navale succède à quelque chose qu'on appelait l'escadre, qui était plus sélectif, et c'est donc le commandement de tous les bateaux gris de haute mer, qu'ils aient des canons ou pas.
Et ça représente beaucoup de navires à votre époque?
Alors actuellement, à mon époque, c'était dans les 80 et les poussières, et ça baisse. En 20 ans, on a grosso modo divisé les forces armées françaises, et donc la marine aussi, par deux.
Qui est un autre souci.
C'est un autre sujet.
Mais qui pose quand même question par rapport aux événements actuels.
Absolument, tout à fait.
Alors, vous poursuivez votre carrière, amiral.
Oui.
Vous devenez ensuite major général de la marine.
Oui.
Et ensuite, amiral 5 étoiles comme contrôleur général. Alors, expliquez-moi tout ça.
Alors, j'ai, à mon grand regret, quitté mes fonctions de préfet maritime
pour venir
commander la force d'action navale. J'ai, à mon très grand regret, quitté la force d'action navale pour aller comme major général de la marine à Paris. Le major général de la marine, du point de vue hiérarchique, est le numéro 2 de la marine.
C'est ça.
Et du point de vue fonctionnel, il est le chef de l'état-major de la marine à Paris. qui à l'époque, par parenthèse, se situait pour moi rue Royale, et c'est la raison pour laquelle la marine s'appelle la Royale. Ce n'est pas du tout parce qu'elle est monarchique, c'est parce que ses bureaux sont rue Royale.
Ah, très bien. Alors justement, amiral, je vais profiter de vous avoir. La marine actuellement est en première page des journaux. Nous avons l'inauguration, la rénovation du musée de la marine.
Tout à fait.
Alors ça, c'est quelque chose. Je l'ai visité moi il y a une quinzaine d'années. Paraît-il que c'est remarquable.
Si vous voulez, moi j'ai toujours eu un faible pour ce musée de la marine.
Ah, oui.
Au Trocadéro, je m'en suis d'ailleurs occupé à un moment, enfin je vous passe les détails. Il a été fermé pendant très longtemps parce que il est dans le palais de Chaillot, construit en 1930 et sans doute un petit peu avec des économies dans la construction, ce qui fait qu'il fallait vraiment un très grand carénage pour le musée de la marine.
Ah oui.
On l'a donc fait, et en plus, et je trouve que c'est une bonne idée, on a décidé de remplacer ce qui était grosso modo le musée de la Marine nationale par le musée de la Marine française. C'est-à-dire qu'on a élargi la palette de ce qui était dedans. Cela dit, il y a en France d'autres musées très intéressants.
Et
en particulier, il y en a un à Rochefort qui est vraiment tout à fait intéressant. Vous en avez un aussi à Toulon et un à Brest d'ailleurs. Voilà.
Alors justement, pour revenir à votre jeunesse, amiral, est-ce que vous avez navigué sur la Belle Poule ?
Ah oui, bien sûr.
Alors, expliquez ce que c'est que la Belle Poule.
Alors, la Belle Poule, il y a deux frégates dans le sens premier du terme, c'est-à-dire des voiliers avec deux mâts, un mât de hune et un grand mât, qui ont été construits entre les deux guerres. C'est l'Étoile et la Belle Poule. Il y a deux bateaux qui, à l'époque, au moment de leur construction, autant que je me souvienne, étaient privés et ont été donnés par une dame dont j'ai oublié le nom à la Marine nationale. Ensuite... Et ça sert, grosso modo, d'école pour la voile.
Oui, tout à fait.
Vous voyez, et pour l'équipage et la voile. Et naviguer sur l'Étoile et la Belle Poule, c'est passionnant.
Justement, je pense que vous, amiral, vous avez fait votre école d'officier sur la Jeanne d'Arc.
Oui, mais pas celle-là.
Pas celle-là.
Ni celle d'avant. J'ai été, je crois, de l'avant-dernière campagne de la Jeanne d'Arc qui avait été mise en service avant la Deuxième Guerre mondiale.
Alors, quel est le bateau école maintenant pour...
Alors, il change tous les ans, si vous voulez.
Ah oui.
La Jeanne d'Arc, sur laquelle j'étais, traditionnelle, de l'entre-deux-guerres, a été remplacée par une autre Jeanne d'Arc porte-hélicoptère. Et quand ce Jeanne d'Arc porte-hélicoptère a été vieux, la marine s'est posé la question de construire un nouveau et n'avait pas les moyens, surtout avec les diminutions des forces. On a donc décidé que l'on prendrait ce qu'on appelle des BPH, c'est-à-dire des bâtiments porteurs d'hélicoptères, parce qu'ils ont une assez grande capacité. Et tous les ans, ce bateau change. Il est en fonction des disponibilités, des carénages, etc. Autrement dit, Jeanne d'Arc n'est plus le nom d'un bateau, c'est le nom d'une école, l'école d'application de la marine, et d'une campagne que fait cette école.
Ah, très bien.
Voilà.
Bah, écoutez, je vous remercie de ces explications. Justement, nous avons des navires ou porte-hélicoptères.
Oui.
Nous en avons deux, je pense.
Alors, ça dépend ce que vous appelez porte-hélicoptère. Parce que maintenant, la plupart des bateaux d'un certain tonnage peuvent porter des hélicoptères. Mais pas 36.
Pas 36, c'est ça.
Voilà.
Oui, très bien. Alors, amiral, vous avez oublié de me parler d'une de vos fonctions importantes qui vous a passionné, mais qui vous a certainement parfois posé quelques tracas. Amiral.
Vous voulez dire les affaires géostratégiques et la politique internationale, peut-être ?
Oui,
ça ?
Oui.
En effet, il se trouve que, à une époque... Alors, je dois vous dire très sincèrement que je ne sais pas si cette fonction existe encore. Parce que elle avait été créée pour mon prédécesseur, et elle n'a pas plu à tout le monde, parce que j'étais, sous ce titre ronflant, grosso modo, le monsieur du ministère des Affaires de la Défense qui travaillait au ministère des Affaires étrangères. J'aime beaucoup les diplomates, ils n'ont pas du tout la même façon de penser que nous, mais ils n'ont pas non plus du tout la même façon de se comporter et d'agir. Il y a donc eu une période d'adaptation que je qualifierais de longue, d'autant plus que dans certaines instances internationales où j'étais le représentant, eh bien c'était moi qui dirigeais la délégation et pas eux. Et ça, évidemment, c'est, pour un diplomate, c'est pas très drôle. Car la Constitution française, dans son article, je sais plus, 13, je crois, dit que toute mission internationale doit être dirigée par un diplomate. Sauf celle pour qui ça existait avant cette Constitution. Ce qui était le cas d'une organisation tout à fait intéressante et que, dont je ne comprends pas qu'on l'ait laissé dépérir totalement, qui s'appelait l'Union de l'Europe occidentale.
Oui.
L'Union de l'Europe occidentale, c'est grosso modo avant la création de l'OTAN, Anglais, Français, Belges, etc., ont dit qu'il faut quand même faire quelque chose pour construire une Europe. Et ont donc monté cette organisation internationale, l'Union de l'Europe occidentale, qui ensuite évidemment a été élargie, dans un premier temps avec De Gaulle et Eisenhower à l'Allemagne,
oui.
Dans un deuxième temps, et j'ai participé à toutes les négociations avec l'Espagne et le Portugal, où il y avait l'Italie,
oui.
Au début aussi,
oui.
Hein, voilà. Et ensuite, et ça c'était absolument passionnant, une fois qu'on a fait ça, on s'est dit, il y a quand même le rideau de fer qui est en train de tomber, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour agrandir l'Europe à l'Est ? Alors, inutile de vous dire que je ne vous donnerai pas les détails, car ces missions étaient évidemment tout à fait restreintes, mais c'était passionnant de travailler avec les gens de ces nationalités, dont les Russes, bien entendu, pour savoir comment on allait essayer d'organiser la politique de sécurité et de défense de ce qui pourrait peut-être un jour devenir une Union européenne. Et c'était vraiment extrêmement instructif, pas rigolo, mais vraiment très important.
Alors,
à mon avis.
Pourquoi ça ne s'est pas suivi ?
Alors écoutez, là, en me posant cette question, vous me forcez un peu à faire de la politique, ce qui n'est pas évidemment mon propos.
Très bien.
Mais je vais juste vous dire un mot, ça va être de dire... Les États-Unis ont vis-à-vis de l'Europe une politique très différente de ce que beaucoup de gens croient. Et pendant, ils ont tout de même sur le fond un esprit très dominateur et ils n'ont pas pu accepter une organisation dont ils ne faisaient pas partie.
Si je puis me permettre, une très brillante carrière et une connaissance de la marine d'une manière remarquable. Mais ce n'est pas terminé. C'est justement l'objet d'une troisième émission que nous allons faire ensemble. Justement, sur un petit peu la mer et toutes les influences que ça peut avoir.
Très bien.
Merci à vous, auditeurs, auditrices, pour votre fidélité et à très bientôt pour une nouvelle émission avec Agora Défense sur le thème « La mer », bien évidemment, et avec l'amiral Mallard. Merci à vous.